sur le... Donc, comme je dis, nous sommes dans le passage de Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 1, jusqu'au verset 1, verset 33. Et je ne vous cache pas, mes frères et sœurs, je fais très attention à cette théologie qui nous dit il faut prendre verset par verset. J'ai dit totalement. Ça ne veut pas dire que je rejette. Il y a des circonstances, on peut prendre verset par verset. Mais l'inconvénient de dire verset par verset, c'est que souvent, on perd le contexte et on perd les liens qu'il peut y avoir. Donc on peut faire des messages verset par verset. Mais il faut faire très attention, il n'y a pas de règle. Et c'est juste, je partage avec vous ce danger de faire des messages en venant verset par verset. Et en fait, on essaie de les faire parler coûte que coûte. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons ce passage assez long, verset 1 à verset 33, du départ, c'est-à-dire le Seigneur envoie ses disciples deux par deux, et à la fin, il retourne le voir pour lui rendre des comptes. Alors, notre passage, en fait, il y a quatre scènes, on peut dire, quatre étapes, donc quatre parties. La première, c'est le rejet de Jésus à Nazareth, chez lui. Deuxième, l'envoi des disciples. Troisième, je ne sais pas ce que ça vient faire ici, d'un seul coup, on nous parle de la mort de Jean-Baptiste et on termine par le retour des disciples. Vous voyez? Là, au moins, vous avez le résumé de ces 33 versets. C'est les quatre étapes. Mais quel sens spirituel pour nous? Pourquoi il y a cette histoire? Alors, malgré la diversité des scènes de Marc 6, versets 1 à 33, ben, il y a, mes frères et sœurs, un fil conducteur. Et c'est ce fil conducteur que je veux partager avec vous. Il y a un fil conducteur qui les unit et les relie. Celui du rejet. Rejet de Jésus, rejet de ses envoyés, et rejet de la vérité qui a coûté la vie à Jean-Baptiste. Et en parallèle, il y a la question cruciale de la manière dont chacun répond à la mission et à l'autorité spirituelle. Ce passage constitue une fresque spirituelle profonde qui nous éclaire sur la nature du ministère véritable et sur les résistances qu'il suscite. Quatre scènes, le rejet de Jésus, dans son chez lui, ça peut nous donner quand même une idée sur quand on est rejeté chez soi, y compris ma propre famille. Faut oublier, Jésus, le premier, était rejeté chez lui. Même sa famille ne le reconnaissait pas déjà au départ. Ses frères ne le reconnaissaient pas comme le Messie. Encore moins le Fils de Dieu. Donc si on est rejeté dans nos familles par notre foi, mais ne vous étonnez pas. J'ai envie de dire entre guillemets, c'est la logique des choses. La mission des disciples exposés au rejet comme leur maître. Le rejet et la mort de Jean-Baptiste. Et on termine parce qu'il fait la règle de tout chrétien. C'est le retour des disciples et le repos auprès de Jésus. Alors, commençons par le premier, le rejet de Jésus de Nazareth. Jésus revient dans sa ville natale. Il enseigne avec une sagesse remarquable et manifeste une puissance divine à travers ses œuvres. C'est comme si Abdelak revient chez ses parents et dit « Ah, ça, il a réussi ses études, il est revenu bien, accueillons-nous, faisons la fête. » Non, ils n'ont pas fait ça. C'est le contraire. Ils disent « Non, mais on sait comment tu es, reste où tu es. » Mais loin d'être accueilli, sa parole est rejetée par ceux qui le connaissent. Apparemment, ils se disent le connaître trop bien. Mais ils le connaissent selon la chair. Et la connaissance selon la chair a poussé ses compatriotes à le rejeter. Les habitants de Nazareth voient en lui, qu'est-ce qu'ils voient en lui? Le charpentier, le fils de Marie, le fils issu d'une famille nombreuse, qu'ils étaient au moins 6. Il faut savoir, au moins 6, encore une fois, la parole de Dieu. Parce que là, on nous cite les 4 frères, et dans, plus loin dans la parole de Dieu, on nous dit, on connaît ses sœurs, qui disaient au moins 2 alors. Donc 4 plus 2, c'est minimum 6. Donc c'est une famille nombreuse. Oui, on peut faire cette enquête, mais très simple. Ça remet en question aussi le dogme chez les catholiques. Hein. Marie n'a pas d'enfant, etc. Alors, ils le considèrent comme un homme banal. Ce qui est vrai d'ailleurs, il le dit, il est comme tout le monde. Hein. La parole nous le dit, hein. Il est comme tout le monde, il n'y a rien de supérieur. Sans légitimité religieuse officielle, le regard limité par le quotidien et les apparences, les empêche de reconnaître en lui le Fils de Dieu. Ce rejet illustre un mécanisme sociologique connu de nos jours et bien documenté. Les Nazaréens, déjà marginalisés dans leur contexte social, au point que Nathanaël s'exprima, il disait « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Eh bien, ce contexte qui marginalise les Nazaréens vont en fait le projeter sur les autres. On est tellement méprisé, on méprise les autres. C'est pourquoi, je dis toujours, souvent, en France, on nous dit qu'on parle de racisme. Si mon langue, et ça se confirme dans la parole de Dieu. Quand on rejette quelqu'un, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est qu'on a un problème chez soi, d'abord. Les Nazaréens rejettent Jésus. Ils étaient rejetés. Ils transposent ce rejet sur Jésus lui-même. Et c'est un phénomène sociologique connu dans notre monde, pas d'aujourd'hui. Ne recevant pas d'honneur, ils ne peuvent en accorder à l'un des leurs. Leur cœur est voilé, leur foi absente. Jésus s'étonne de leur incrédulité et ne peut accomplir que peu de miracles à cause de cette fermeture spirituelle de leur cœur qui les empêche de découvrir la réalité divine de Jésus. Connaître Jésus véritablement ne peut pas venir d'une déduction humaine comme ils ont fait les Nazaréens. Ne peut pas venir d'une tradition religieuse. Cela demande une œuvre surnaturelle de l'esprit dans notre esprit et nous l'avons partagé ce matin avec l'échange avec Dominique. Moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous ne pouvez pas me comprendre humainement. On ne peut pas l'expliquer. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Il ne peut même pas les comprendre. Dieu est esprit, on l'a dit ce matin, Axel. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. J'ajoute, le connaissent, le comprennent en esprit. Donc, calquer l'humain sur le spirituel, c'est du temps perdu, au meilleur du cas. Au pire, tout est erroné, faux. Aucune chair ne peut comprendre Dieu. Il faut une nouvelle naissance, une fécondité spirituelle où l'Esprit de Dieu rencontre notre esprit et engendre une vie nouvelle. C'est cette transformation intérieure qui seule permet de dire comme Pierre avec conviction, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Sans cela, on parle dans le vide, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne comprend pas et on est à côté de la plaque. Le texte souligne que Jésus ne peut pas faire de miracle à Nazareth à cause de leur incrédulité. Dieu respecte la liberté humaine. Il ne force pas, Mais cette incrédulité, ce refus de la révélation, ferme la porte à la grâce. Les Nazaréens ne connaissent pas Jésus dans sa réalité divine. La question se pose pour nous. Qui est Jésus pour nous? On doit se poser la question, nous. Ça, c'est notre responsabilité. Qui est Jésus pour nous? C'est la question que le Seigneur a posée à ses disciples un peu plus loin dans les évangiles de Marc. Dans l'évangile de Marc, dans les autres évangiles. Et vous? Je m'intègre dedans. Qui dites-vous que je suis? Notre salut dépend de cette réponse. Si Jésus est vraiment le Christ, le Fils de Dieu, reçu par l'Esprit dans notre esprit, alors il ne peut être un simple modèle, ni un simple prophète, même un grand prophète chez d'autres religions. Il ne peut pas être ça, que ça. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le scandale de Nazareth peut être aussi le nôtre. Jésus est souvent rejeté, non à cause de ce qu'il est, mais à cause de ce que nous croyons savoir de lui. À Nazareth, comme aujourd'hui, ce rejet révèle notre besoin d'une révélation divine. Ça me pousse à vous faire une conclusion claire, nette, précise. Dieu ne s'explique pas, ne s'explique jamais. Dieu se rencontre. On vit cette communion avec lui, mais on ne peut pas l'expliquer. Tous mes mots seront que des descriptions. Une description, ça ne parle pas de la réalité. C'est une description de la réalité. Mais par contre, il nous appelle à vivre avec lui dans une communion avec son Fils, dans l'Esprit. C'est en recevant le témoignage de l'Esprit de Dieu dans notre esprit que nous reconnaîtrons que Jésus, tel qu'il est, C'est l'Esprit qui nous dit, qui certifie à nous dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, pas ma tête. Dieu peut le permettre, ma tête. Mais si c'est la simple, la seule entrée, je ne bénéficie pas du privilège du Fils de Dieu, tel que la Bible nous le dit. Alors quand Pierre ne pourra confesser par cet esprit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Passons maintenant à la mission des disciples envoyés par le Seigneur et qui étaient rejetés par moments dans leur mission. Dans Marc 6, verset 7, Jésus appelle les 12 et les envoie deux par deux. D'ailleurs, à ma connaissance, il y a une secte qui envoie deux par deux, appliquée à la lettre. Je ne sais pas si c'est... Voilà, vous voyez en... Oui, la lettre tue. Oui. À la lettre, on applique ça. Deux par deux, on m'envoie deux par deux. Oui, appliquer bêtement, ça ne veut pas dire qu'on est dans la vérité biblique. Jésus appelle les 12 et les envoie deux par deux. Ce détail, loin d'être anodin, est riche de sens. D'une part, cela montre que l'appel ne vient pas des disciples eux-mêmes. C'est Jésus qui les appelle et les envoie. C'est Jésus qui les appelle. C'est Jésus qui les choisit, qui les appelle et les envoie. Il ne s'agit pas donc d'une initiative personnelle, ni d'un projet humain, mais bien d'une mission initiée par le Maître. D'autre part, l'envoi en binôme revêt une valeur, on va dire, morale, juridique et spirituelle dans la tradition juive. Un témoignage n'était recevable qu'à condition d'être soutenu par deux témoins. C'est la loi de Dieu. Et c'est l'Ancien Testament. Et Dieu lui-même nous donne l'exemple. Père, Fils, Saint-Esprit. Moïse, Aaron. L'apôtre Paul, souvent, il y avait Marc, il y avait avec lui. On oublie cette règle-là. Être seul dans la mission est un danger. Y compris dans les traitements des problèmes, dans des situations difficiles dans l'Église. Je vous invite à lire Matthieu 18. C'est ton frère, mais je vais le voir. Il ne t'écoute pas. Tu prends un, deux, trois personnes, tu vas le voir. Si ça ne marche pas, tu reviens à l'Église. Oui, c'est toujours ce collectif qui doit primer sur l'individuel. Et c'est pour ça, souvent, je me pose la question sur certaines assemblées pyramidales. Au-dessus, il y a le pasteur. Revenons à Marc 6. La sagesse. Et vous avez compris, ce n'est pas pour rien que notre conseil va fonctionner à trois et s'élargit à quatre. Donc on essaie d'avoir cette collégialité pour ne pas qu'il y ait une seule personne qui dirige et ça peut mener vers des choses catastrophiques. Ainsi, Jésus donne une crédibilité spirituelle et une légitimité de leur témoignage. De plus, cette organisation favorise le soutien mutuel, la protection contre l'orgueil et une meilleure persévérance face aux difficultés. Jésus ne se contente pas d'envoyer les disciples, il leur donne également une autorité réelle. Celle de dominer sur les esprits impurs. Et tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu envoyées par Dieu, ont cette autorité-là. Et dedans, il y a le discernement. Cette autorité n'est pas une compétence humaine, ni le fruit d'un savoir théologique ou d'un salut religieux, bien que ça peut venir compléter. Elle vient directement du Christ et de lui seul. L'autorité spirituelle authentique procède d'une relation vivante avec le Seigneur, non d'un titre ou d'un diplôme. Je peux avoir Bac plus 5, Bac plus 10 théologique, ça ne me donne pas le droit d'être un serviteur de Dieu, s'il n'y a pas d'appel du Christ lui-même. On ne s'improvise pas ministre de Dieu. Ceux qui s'y risquent sans mandat divin, comme les fils de Sheva, acte 19, s'exposent à de graves conséquences spirituelles. Ce n'est pas l'usage du nom de Jésus qui garantit l'efficacité d'un ministère, mais l'appel authentique et l'obéissance à cet appel. Jésus demande à ses disciples de partir sans bagages superflus, ni pain, ni sac, ni argent. Cette consigne radicale n'est pas une exaltation de la misère, mais une invitation à la foi et à la confiance. Celui qui est envoyé par Dieu peut avoir l'assurance et la garantie que Dieu pourvoira à ses besoins. Si ce n'est pas le cas, posez la question s'il est envoyé par le Seigneur. Cette simplicité de vie contraste fortement avec les pratiques actuelles, où l'on établit des business plans on reçoit assez de sollicitations pour donner, pour bénir un projet. Je me demande s'il vient de Dieu ou s'il est humain. On établit des business plans pour lancer des projets spirituels, souvent sans réel discernement de l'appel divin. On prie pour que Dieu bénisse des projets humains, parfois même montés à coups de marketing religieux. Et je peux vous en donner plein d'exemples si vous voulez. Prenons le temps, je vous montrerai des exemples. Mais quand le Seigneur est à l'origine de l'appel, c'est lui qui prépare les cœurs, les lieux, les ressources aussi. Notre rôle est d'apprendre simplement à écouter notre Seigneur avant d'agir. Ensuite, Jésus avertit ses disciples qu'ils seront rejetés par certains. Il leur enseigne à ne pas s'attarder dans les lieux d'opposition. Et nous, des fois, on insiste. Des fois, on est dans l'opposition de certaines situations. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, le Seigneur ne veut pas que je parte. Il faut que je reste parce qu'il faut... Non. Le Seigneur leur dit, ça ne reçoit pas. Hop, faites demi-tour et partez. Vous voyez, la sagesse divine, des fois, ça nous dépasse. Parce qu'on a une définition de l'évangélisation telle qu'on va même devant l'opposition, on y reste avec les conséquences qu'il peut y avoir. Le message de la repentance provoque souvent une résistance, car il confronte la chair, le monde et le péché. Mais l'important est d'obéir au Seigneur, non de chercher l'acceptation humaine. Le rejet fait partie du chemin du disciple, et c'est même un signe que le message touche des cœurs. Le message de la croix provoque la réticence et un retour difficile. Je dirais difficile, je suis gentil. Jésus prépare ainsi ses envoyés à garder leur paix intérieure, à ne pas se décourager et à poursuivre fidèlement leur mission. Ne nous fions pas aux apparences, mes frères et sœurs. Les disciples prêchent la repentance, chassent les démons et guérissent les malades en les oignant d'huile. Ces signes surnaturels ne sont pas des performances pour attirer la foule, mais la confirmation du message central qui est la repentance. La signature de la repentance, ce sont les démons qui sont chassés et les malades guéris. Les guérisons sont les fruits visibles d'une transformation intérieure. Elles illustrent la guérison de l'âme opérée par la foi en Christ. Il ne s'agit pas d'une loterie divine où l'on espère un miracle au hasard, à coup de prière et d'imposition des mains. Non. C'est un accompagnement de la parole vivante, une signature visible d'une réalité invisible qui se fait dans le cœur. Comme pour Paul, dont la conversion fut préparée en amont par le Seigneur. Pendant qu'il était pendant les 3 jours aveugle, le Seigneur a déjà parlé à quelqu'un d'autre, à notre disciple, il lui dit « Va maintenant !» Il lui a même donné l'adresse exacte. Dieu travaille en profondeur dans les cœurs bien avant l'intervention du messager. Aujourd'hui, de nombreux ministères s'autoproclament sans appel véritable, alors que la Bible nous dit « Un appel se confirme toujours au sein de l'Église ». On observe une professionnalisation de l'appel spirituel, diplôme, projet marketing, financement. Beaucoup se servent de la parole de Dieu pour valider des ambitions humaines. Et on en a entendu des témoignages catastrophiques hier avec Jean-Louis. J'ai même pas envie de vous raconter tellement c'est blasphématoire de la part de certains hommes qui se disent hommes de Dieu. Mais un ministère qui ne vient pas de Dieu ne porte pas de fruits véritables. Il peut même produire des scandales s'il ne vient pas de Dieu. Il peut produire des scandales si ce message ne provient pas de Dieu lui-même. L'histoire récente de l'Église est marquée par ses dérives. Et je ne parle même pas de l'Église catholique. Hein. Parce qu'on peut... Les autres courants aussi. Il nous faut revenir... Ces expériences-là doivent nous faire revenir à une écoute humble de Dieu, à une marche dans l'amour, la vérité et la sagesse. Voilà la triptyque. Apprenons-nous à nous asseoir auprès du Maître, au pied du Maître, comme Marie, la sœur de Lazare, comme Marie, avant de nous lever pour le servir. Souvent, on cherche à le servir, on ne cherche même pas à nous asseoir à ses pieds. C'est dans cette communion intime que naît un vrai ministère. Et là, d'un seul coup, il y a Jean-Baptiste qui apparaît. Le récit de la mort de Jean-Baptiste dans l'évangile de Marc est une pause dramatique et poignante au cœur de l'élan missionnaire des disciples. Alors que Jésus envoie les siens prêcher la repentance et guérir les malades et chasser les démons, l'histoire de Jean vient rappeler une vérité essentielle. Témoigner fidèlement du message de Dieu a un coût. Et ce coût peut être la vie elle-même. Sommes-nous prêts à payer ce prix? C'est une question qui s'adresse à chacun de nous. Jean-Baptiste n'a pas été mis à mort pour avoir volé, ou pour avoir menti, ou semé de la division. Pas du tout. Il a été tué pour avoir dit la vérité. Il a dénoncé publiquement le péché du roi Hérode, qui avait pris pour femme Hérodias, la femme de son frère. Ce message de vérité, inspiré par Dieu, a touché la conscience d'Hérode. Le texte dit qu'Hérode craignait Jean. Il le considérait comme juste. Il l'écoutait. Il croyait même que c'était un saint. Chose qu'on peut en dire aussi. Mais Hérode n'avait que des remords. Il reconnaissait la vérité, mais n'a jamais fait le pas vers la repentance. Or, les remords ne suffisent pas, mes frères et sœurs. Ils ne sont qu'un reflet douloureux de la conscience. Un signal d'alerte sans transformation. Si ces remords ne sont pas accompagnés d'une délivrance et d'un changement radical, c'est-à-dire d'une véritable repentance, ils peuvent mener au pire, comme c'est le cas au Pharaon, l'exemple de Pharaon. C'est ainsi qu'Hérode, prisonnier de son image, de ses passions et de la pression sociale, a fini par faire décapiter celui qu'il respectait, qu'il considérait comme homme de Dieu même, comme saint. C'est le syndrome du Pharaon face à Moïse. Une conscience troublée par les plaies et les avertissements divins, mais un cœur qui s'endurcit à chaque refus d'obéissance. À force de refuser la lumière, les ténèbres deviennent permanentes et la repentance devient petit à petit impossible. Quand le remords ne conduit pas à la repentance, quand nous continuons seulement à nous plaindre, quand on continue sans décision de changement, ça devient une prison et un poison qui peut mener au pire. Or, Hérode est hanté par sa faute. Quand il entend parler de Jésus, il croit que Jean est ressuscité. Son passé le poursuit. Le remords est devenu un poison. Et c'est souvent le cas lorsque la conscience est éveillée, mais que la volonté est captive. Beaucoup vivent aujourd'hui avec des remords profonds. Tous les jours des remords. Encore des remords. Et ils nous poussent à partager leur remords, mais sans jamais franchir le seuil de la libération et de la repentance. Seul le Seigneur peut délivrer du péché. Le remords n'est pas une fin en soi. On peut avoir des remords, et c'est une bonne chose. Il ne faut pas que ça dure. Ces remords doivent mener à la repentance. Sinon, il devient un tombeau intérieur. Il faut plus qu'une conscience touchée. Il faut plus que des remords. Il faut une vie transformée. Et c'est le rôle de l'Église. Jean-Baptiste est mort pour avoir dit la vérité. Et il n'est pas le seul. Le Nouveau Testament nous montre que ce chemin de fidélité est souvent jonché de souffrances. Étienne lapidé, Jacques décapité, Paul emprisonné et martyrisé, Pierre crucifié, jusqu'à Jésus lui-même crucifié pour avoir proclamé la vérité du royaume de Dieu. C'est ce qui nous attend, mes frères et sœurs, si nous voulons nous maintenir dans la communion avec lui. Ça ne veut pas dire obligatoirement, mais ça peut arriver. Sommes-nous prêts à payer le prix? Le témoignage fidèle du croyant ne sera jamais applaudi dans le monde. Si c'est le cas, méfiez-vous, mes frères et sœurs. Il faut s'en méfier si c'est le cas. Le témoignage de Jean-Baptiste dérange. Il suscite tout naturellement l'opposition, comme le dit Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï, moi le premier avant vous. La vérité ne s'accommode pas aux philosophies du monde. La vérité déteste le compromis. Elle les dénonce. Et souvent, elle provoque le rejet. Il est naturel, le rejet. Si vous êtes rejetés, mes frères et sœurs, dans vos familles, alléluia, remerciez le Seigneur. Mais ce rejet, quand il est subi par fidélité à Dieu, devient une couronne de gloire. Celle des témoins véritables. Et le mot grec martyr signifie aussi témoin. Donc témoin, martyr, c'est la même chose. Mourir pour la vérité, c'est vivre pour l'éternité. Voilà un slogan politique. Tiens. Mourir pour la vérité, c'est vivre pour l'éternité. Ce drame nous rappelle une chose essentielle. Seul Dieu peut envoyer. Seul Dieu peut envoyer. Seul le Seigneur prépare, appelle, forme, accompagne ses serviteurs. Il n'envoie pas à la légère. Il pourvoit à tout. Ne prenez rien pour le voyage, leur a dit le Seigneur. Celui qui marche par la foi est équipé du ciel, non des ressources humaines. J'ai essayé de placer ce mot science et sociale. Avant d'envoyer, Dieu appelle et confirme son appel. Avant d'envoyer, Dieu appelle et confirme son appel au sein de l'Église. Gardons cette règle en nous, on l'écrit là sur le mur. Si Dieu appelle au sein de notre Église, il le confirme dans l'Église. Le Seigneur commence par nous former dans le secret. Il nous appelle à l'écoute avant le service, à l'intimité avant l'action, comme Marie de Béthanie, qui s'assoit aux pieds de Jésus pendant que Marthe, sa sœur, s'agite. Elle veut le servir. Alors que Marie, elle est restée aux pieds, elle a versé son parfum sur son corps. Dieu nous invite d'abord à communier avec lui, à le chercher dans la prière, dans la méditation, dans les louanges, à recevoir sa parole avant de la porter au monde. Le message de Jean-Baptiste nous interpelle, il m'interpelle totalement. Sommes-nous prêts à annoncer la vérité, telle qu'on soit malgré le prix à payer? Soyons honnêtes avec nous. Sommes-nous prêts à perdre notre vie pour le Seigneur? Sommes-nous de ceux qui cherchent la faveur des hommes ou celle de Dieu? Avons-nous de simples remords ou une réelle repentance? Et surtout, agissons-nous sur mandat divin ou portons-nous notre propre rejet spirituel? Jean est mort, mes frères et sœurs, Jean est mort, mais sa voix continue de crier dans le désert de nos sociétés modernes. Jean est mort, mais il continue à nous dire « Préparez le chemin du Seigneur !» Et cette voix aujourd'hui s'adresse à notre petite communauté. Je termine par le quatrième, le retour des disciples auprès de Jésus. Le retour des apôtres auprès de Jésus après leur mission ouvre un moment précieux de repos et de communion. Ce passage apparemment anodin révèle pourtant un enseignement spirituel essentiel pour l'Église, essentiel pour la vie chrétienne authentique. C'est quoi cet enseignement? Rendre compte au Seigneur tout le temps. Rendre compte et se reposer auprès de lui. Est-ce que nous rendons compte tous les jours au Seigneur le soir de notre journée? Il attend ça. Les apôtres, s'étant assemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Après leur mission, les disciples reviennent vers Jésus. Ils lui racontent ce qu'ils ont fait et enseigné. Cette scène, bien que brève, est précieuse. Elle montre que le ministère ne s'accomplit pas indépendamment du Christ. Le service véritable mène toujours à un retour auprès de lui. Retour auprès de lui pour lui rendre des comptes. S'il nous a envoyés, on lui rend des comptes, non? On le fait dans le monde de l'entreprise, mais pour le Seigneur, on ne le fait pas. C'est dans la communion avec le Maître, avec notre Seigneur, que le serviteur se ressource, se réajuste et trouve du repos. Ce principe doit s'appliquer dans la vie de tout enfant de Dieu qui se dit chrétien. Donc, ça doit s'appliquer chez nous. Il touche toute notre vie quotidienne, toute notre vie de tous les jours. Avant de dormir, fermer les yeux, nous devons rendre des comptes au Seigneur de notre journée. On réajuste sa vie. Et on dort et on commence une nouvelle journée. Que ce soit dans notre engagement spirituel, notre vie professionnelle, familiale ou personnelle, nous sommes appelés à revenir sans cesse vers le Seigneur et lui rendre compte dans l'obéissance, l'humilité, la crainte et l'amour. Cette intimité indispensable avec le Seigneur est un repos spirituel qui nous est offert. C'est un repos qui nous transforme. Venez à l'écart dans un lieu désert, il n'y a que vous et moi, et reposez-vous un peu avec moi. C'est ce qu'il nous offre tous les jours. Dans notre monde marqué par l'activisme, il faut faire l'activisme, la performance et la pression constante, cette parole de Jésus est une bouffée d'air spirituel. Reposez-vous un peu. Il est plus dur de s'arrêter que de marcher. Il nous dit, reposez-vous un peu. Mais vous allez vous arrêter, oui? Venez à mes pieds, parlons-en. Reposez-vous un peu. Ce repos n'est pas la passivité, comme certains le disent. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de l'oisiveté, mais la communion avec le Seigneur, et le Seigneur n'attend que ça. C'est l'espace où l'on se décharge sur lui. On se décharge de tout ce qui nous cause encombre pour retrouver le cœur de notre mission. C'est quoi notre mission? C'est être avec lui. C'est pas aller prêcher de faire des disciples. Non, la première mission, c'est être avec lui. Et c'est celle-là la plus importante. Et souvent, on la néglige en allant vers l'autre. Être avec lui d'abord. Et là, il nous montre ce qu'il faut faire. J'aime bien citer des hommes de Dieu, et celui-là, je l'aime bien parce que je le cite assez souvent. Watchman Nee. Excusez-moi, je reviens toujours au même. Parce qu'il m'a parlé beaucoup dans mon cheminement chrétien. Watchman Nee, dans son livre que je vous conseille, si vous pouvez le lire, vraiment je vous le conseille, lisez-le. Il est petit, mais pas grand. Watchman Nee, dans son livre, s'asseoir, marcher, tenir ferme. C'est le titre. S'asseoir, marcher, tenir ferme. Rappelle que tout commence par le fait de s'asseoir avec Christ. De goûter à la plénitude de sa grâce. Ce n'est qu'après ce repos que nous pouvons véritablement marcher et tenir ferme. Si nous manquons de repos, on ne peut pas marcher. Mais si on marche, on ne peut pas être ferme. La plupart des chrétiens commettent l'erreur d'essayer de marcher afin de pouvoir être assis, écrit-il. Il faut inverser l'ordre. S'asseoir d'abord, marcher ensuite, tenir ferme. C'est le découlement, c'est la conséquence. Ce repos dans la présence du Seigneur n'est pas une fin en soi. Il nous apprend le discernement. Ce repos apprend à l'Église le discernement. Nous en avons besoin. Discernement, sagesse. On l'apprend qu'en prenant du repos avec le Seigneur. Ce repos dans la présence du Seigneur n'est pas une fin en soi. Il nous apprend le discernement. Et il produit une transformation intérieure qui progressivement se manifeste à l'extérieur. Et nous sommes à l'origine de rien de cette transformation. On ne se rend même pas compte. L'Église devient un témoignage vivant. Le verset 33 est frappant. Verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Une réflexion m'est venue. Au début de l'évangile de Marc, et on l'étudie depuis pas mal de temps, vous pouvez le vérifier, depuis le début de l'évangile de Marc, les foules cherchaient Jésus seul. Désormais, maintenant, elles reconnaissent aussi les disciples. Et les foules maintenant confondent Jésus et ses disciples. Parce qu'ils ont appris à lui obéir et se reposer avec lui. Elles reconnaissent aussi les disciples. Pourquoi ? Parce qu'une communion profonde s'est établie entre eux et leur maître. Ils ne sont plus de simples messagers, mais des porteurs de la présence de Christ. Jésus peut ne pas être là, mais s'il y a ses disciples, la foule courra quand même vers eux. Parce qu'ils voient en eux Jésus-Christ. Comme Paul le dira plus tard, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque nous nous laissons transformer par cette vie de repos, et j'insiste, nous avons besoin de repos avec le Seigneur, de communion et de soumission à Dieu, notre témoignage devient visible. Non parce que nous faisons de grandes choses, mais parce que Christ est vu à travers nous. Et Jésus ne peut pas être vu à travers nous si nous ne reposons pas en lui. C'est cela le témoignage. Je dirais même, comme c'est le mot à la mode, c'est cela le miracle du témoignage. Christ à travers nous. Conclusion. À travers les versets 6 de 1 à 33 que j'ai essayé modestement de partager avec vous, il y a un fil conducteur qui se dessine. La mission authentique, initiée par Dieu, rencontre inévitablement le rejet. Qu'il s'agisse de Jésus à Nazareth, des disciples envoyés sans rien ou Jean-Baptiste confronté à la haine d'Hérode, tous témoignent de la même réalité. L'autorité spirituelle véritable ne trouve pas toujours l'approbation des hommes, mais elle porte le sceau de Dieu. Et si cette vérité est rejetée, vous avez la signature, c'est le sceau de Dieu. Pas toujours le cas, mais avec discernement, c'est une des signatures. Ce passage nous exhorte à reconnaître l'appel de Dieu, à lui répondre par l'obéissance, à trouver notre repos en lui et à ne pas redouter le rejet lorsqu'il découle de notre fidélité. Il n'y a pas de rejet. S'il n'y a pas de fidélité, s'il y a fidélité, il peut y avoir vraiment, souvent, du rejet. C'est dans une communion authentique avec Christ, affranchie de tout compromis avec le monde, que s'enracine la vraie fécondité spirituelle. Et que se développe la maturité spirituelle dont on a besoin. Que l'Église dans son ensemble, et notre petite communauté en particulier, s'attache avec persévérance à cette dépendance totale envers notre Seigneur, et que lui, et rien d'autre. C'est un chemin souvent coûteux. Avertissons-nous. Ce chemin est coûteux, mes frères et sœurs, je me le dis à moi le premier. Il est coûteux en quoi? En confort, en réputation, en sécurité. Il peut même nous coûter la vie. Si nous sommes d'accord, mes frères et sœurs, nous pouvons avancer ensemble. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que le Seigneur nous aide ensemble à avancer. Il y a un prix à payer. Et ce qui nous attend, c'est la gloire du coup, c'est la couronne de gloire. Que le Seigneur nous aide. Amen.